Bonjour, bienvenue en Transparence, le magazine de la rédaction qui parle de l'actualité et qui donne la parole à ceux qui font l'actualité. Et notre invité ce midi, c'est Christopher Gégès, membre du gouvernement et l'un des porte-parole des loyalistes. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'accepter notre invitation. Alors, beaucoup de sujets à voir avec vous, hein, sous vos casquettes de porte-parole des loyalistes et de membres du gouvernement, en charge notamment de l'économie numérique, de la transition énergétique, mais aussi du dialogue social. Justement, l'intersyndicale est en grève aujourd'hui. Elle réclame une revalorisation salariale et vous organisez une conférence sur les salaires à la fin du mois. Alors d'abord, pourquoi ne pas l'avoir organisée avant pour essayer de désamorcer la grogne des salariés?
Parce que c'était un sujet qui était porté par différents membres du gouvernement. Moi, je suis pas forcément dans la majorité actuelle du gouvernement, mais on a voulu aussi laisser une chance au dialogue social, que le dialogue social puisse être nourri entre les organisations patronales et les organisations salariales. On voit qu'il y a un blocage, qu'il y a des demandes des deux côtés, hein, à la fois des salariés, mais aussi des patrons d'organiser cet événement. Donc ça fait à peu près 15 jours qu'on se voit régulièrement pour caler cette conférence sur les salaires et d'arriver à trouver un chemin social qui pourrait répondre aux problématiques des uns et des autres.
Alors cette conférence sur les salaires, elle doit mener à quoi? C'est en fait tout mettre à plat, trouver un accord entre tous les partenaires sociaux sous l'égide du gouvernement?
Non, tout mettre à plat, non. Mais par contre, il y a des problèmes aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie, de ralentissement économique, mais aussi de pouvoir d'achat avec une inflation qui est galopante, des entreprises qui sont pas forcément en meilleure santé. Mais on sait qu'il y a un problème sur les salaires en Nouvelle-Calédonie, et même le patronat l'a reconnu et a même proposé de mener une politique de relance par une augmentation sur les salaires. Donc il y a différentes propositions qui sont sur la table, à la fois par le gouvernement, à la fois par l'interpatronale, par des groupes politiques. Donc il faut les évaluer, il faut discuter et il faut arriver à trouver, et c'est le but de cette conférence, peut-être qu'on n'y arrivera pas du premier coup, mais le but c'est qu'on commence, mais je suis assez confiant sur un accord qu'on puisse trouver à l'issue de cette conférence sur augmenter les salaires, oui, en contrepartie d'une augmentation de la productivité, de la compétitivité des entreprises, et donc que chacun puisse faire des efforts, que les organisations patronales et les patrons qui peuvent augmenter les salaires le fassent, mais qu'en contrepartie, on puisse agir sur les longues maladies, sur la durée du travail, sur différentes mesures. Et le gouvernement doit apporter aussi des choses, à la fois sur peut-être des baisses de charges sociales qui se répercutent dans des augmentations de salaires, des primes exceptionnelles de pouvoir d'achat qui pourraient être déductibles de l'impôt sur le revenu et exonérées de cotisations sociales. Donc il y a des choses qui peuvent être proposées. Le principal, c'est comme pour l'avenir institutionnel, il faut savoir se parler entre nous et donc arriver à trouver un chemin ensemble.
Au sein même du gouvernement, il y aurait un consensus pour porter ces mesures, ou vous le dites, vous n'êtes pas dans la majorité du gouvernement? Est-ce que vous êtes un peu tout seul à porter ces dossiers?
Non, pas du tout. Là-dessus, il y a une vraie volonté de travailler ensemble sur ces différents points. Donc, un courrier co-signé du président du gouvernement et de ma part va partir aux différents participants de cette conférence pour montrer qu'il y a vraiment un portage uni sur cette conférence. Mais il y a différents cabinets qui sont mobilisés. Le cabinet de Thierry Santa avec l'emploi, le cabinet de Gilbert Thuénon sur la fiscalité, le cabinet d'Adolphe Digoué sur la partie économique, Yannick Slamette sur les comptes sociaux. Donc vraiment, c'est une partie, moi, au titre du dialogue social, je vais animer cette conférence pour qu'on arrive à trouver un consensus sur cette thématique qui est importante, parce qu'on ne vit pas avec 250 000 francs par mois en Nouvelle-Calédonie en ce moment. On survit, on ne fait pas beaucoup de choses, donc il faut arriver à trouver une réponse à ces problématiques et aussi trouver des éléments de relance pour les entreprises calédoniennes.
Quand les syndicats réclament une revalorisation de 6% pour faire face à l'inflation, c'est réaliste ou c'est seulement une position de base pour justement ouvrir un peu le dialogue et les discussions?
C'est une position de base pour ouvrir les discussions, mais enfin, il y a des choses qui viennent sur un problème de niveau de salaire dans le secteur privé en Nouvelle-Calédonie qu'il faut traiter, qui doivent être traités en contrepartie d'augmentation de productivité et de compétitivité. Mais il y a aussi des problèmes sur l'inflation. Et ça, sur l'inflation, c'est ce que je disais tout à l'heure, on peut aussi apporter des mesures qui sont peut-être plus conjoncturelles, parce que l'inflation n'est pas structurelle sur le long terme, et des primes exceptionnelles de pouvoir d'achat, un rehaussement de l'intéressement pour les entreprises et pour les salariés. Donc, à la fois quelque chose de structurel sur sur les salaires, productivité et compétitivité, et une deuxième partie sur plus sur la question de l'inflation sur laquelle on pourrait trouver des solutions.
La question se pose évidemment de façon tout à fait différente dans le public, et là il n'y a pas de revendication du même ordre, il n'y a pas de réponse à apporter ou
non. Il y a des discussions en cours, il y a des avis qui sont différents sur ça. Les collectivités ont fait part de leur choix les unes et les autres sur la question de la revendication dans le secteur public pour la revalorisation du point d'indice comme en métropole, mais ça c'est pas mon secteur et c'est en cours.
Est-ce que vous craignez un durcissement du climat social quand même dans le contexte actuel, on dit d'une inflation, d'un ralentissement économique? Est-ce que les choses vont se tendre? Ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de gros conflits sociaux en Nouvelle-Calédonie, ça pourrait revenir?
Oui, vous avez évoqué tout à l'heure le fait de pourquoi on ne l'a pas organisé plus tôt. Là, on l'organise maintenant parce que justement, il y a tous les ingrédients pour avoir une explosion sociale en Nouvelle-Calédonie, et il n'est pas question de rien faire pendant une période aussi complexe, au moment en plus où on va aborder les discussions institutionnelles, de l'inflation, un ralentissement économique, des gens qui arrivent plus à, enfin, ou qui voient leur la fin du mois arriver beaucoup plus vite que prévu. Donc le rôle des différentes collectivités, le rôle des responsables politiques, c'est de apporter des solutions, mettre tout le monde autour de la table, autour du dialogue social, parce que le dialogue social il doit être nourri entre entreprises et salariés, mais on doit apporter des solutions, et c'est bien pour ça que on va essayer de mener cette conférence sur les salaires.
Justement, quelle est la situation économique réelle, si on peut dire, de la Nouvelle-Calédonie aujourd'hui? On parle de faillite ouvertement. Est-ce que c'est vraiment le bon terme? Est-ce que la Calédonie est en faillite? On sait que le budget ne sera pas voté avant la fin du mois de mars, en tout cas avant le mois de mars, et non pas en décembre comme naturellement. Tout ça sont des indices qui prouvent que la Calédonie ne va pas bien.
Bah, dès lors qu'il faut demander un chèque à l'État pour équilibrer le budget de la Nouvelle-Calédonie, c'est que ça va pas bien. Donc, au-delà de la conférence sur les salaires, et c'est là que il faut que le gouvernement soit plus proactif. Il faut qu'on ait une vraie relance de l'économie, une vraie politique fiscale qui soit attractive et non plus confiscatoire comme ça a été proposé jusqu'à présent. Des mesures d'attractivité en Nouvelle-Calédonie pour éviter que les gens quittent la Nouvelle-Calédonie, mais plutôt reviennent et fassent rentrer des cotisations, fassent rentrer de la consommation dans les comptes de la Nouvelle-Calédonie. Mais oui, la Calédonie ne va pas bien économiquement aujourd'hui, mais pour autant, il y a des solutions à apporter. La première des solutions, c'est de donner un vrai cadre institutionnel, et c'est pour ça qu'il faut que les discussions aboutissent. Enfin, elles ont repris, et maintenant, il faut qu'elles aboutissent rapidement. Mais il y a aussi des mesures de soutien de pouvoir d'achat, de relance de l'économie, qui sont extrêmement importantes. On a un territoire qui est extrêmement résilient et un potentiel absolument fabuleux en Nouvelle-Calédonie, qui ne mérite que être exploité.
Vous parliez du chèque de l'État pour boucler le budget de la Nouvelle-Calédonie. Qu'est-ce qu'il faut vraiment attendre de l'État? Est-ce qu'il est prêt vraiment à aider encore, on a envie de dire? On a cru comprendre lors du dernier voyage de Gérald Darmanin que l'État ne ferait plus des chèques en blanc, quoi, qu'il attendait quand même des initiatives, des efforts également de la part de la Nouvelle-Calédonie.
Oui, il a raison. Enfin, Gérald Darmanin, quand il demande un vrai projet industriel sur le nickel avant de faire un chèque, enfin, je le rejoins mille fois. Il faut une stratégie nickel calédonienne pour que les usines et les emplois soient stabilisés dans le temps et rapportent à la Nouvelle-Calédonie. Et c'est pareil pour les collectivités. C'est qu'est-ce qu'on met en face en matière de relance de l'économie calédonienne? Qu'est-ce qu'on met en place en termes de réduction des dépenses publiques, de mesures d'accompagnement? Et comment la Nouvelle-Calédonie peut aussi être utile à la France? Enfin, la Nouvelle-Calédonie, elle est française. On n'est pas que français pour demander des chèques à l'État. On est aussi français pour apporter quelque chose en matière de décarbonation de l'industrie au niveau national, en matière de stratégie sur le numérique, en matière de rayonnement dans le Pacifique en tant que dernier territoire européen dans le Pacifique. Donc, c'est un vrai projet qu'on a à construire avec l'État, un vrai projet qu'on a à construire avec la France, d'une Nouvelle-Calédonie utile à la France.
Mais je sens comment est-ce qu'on va y arriver? Alors vous dites, il y a les discussions évidemment qui vont s'ouvrir, et peut-être que la Calédonie n'ira pas mieux tant qu'elle n'aura pas trouvé un vrai projet institutionnel. Mais en attendant, quelle politique mène le gouvernement pour faire face à cette situation? On a un petit peu l'impression pour l'instant que tous les gros dossiers sont un peu repoussés, reportés, alors peut-être après les discussions, mais est-ce qu'on pourra attendre jusque-là? On voit les réformes fiscales qui n'avancent pas. Quelle est l'ambiance aujourd'hui et quelle est l'action que peut mener véritablement le gouvernement?
Enfin, ensuite, des réformes fiscales, si elles sont mauvaises, c'est mieux qu'elles n'avancent pas. Mais Oui, le gouvernement doit être davantage volontariste. Nous, on l'a dit au niveau des loyalistes depuis des mois maintenant, qu'on demande une vraie politique de relance de l'économie calédonienne, une vraie politique de réduction des dépenses publiques et qu'on arrête d'avoir une politique fiscale confiscatoire où on fait peur aux gens en permanence.
Mais vous êtes entendu quand vous dites ça par le membre du gouvernement qui est en charge du dossier ou par l'ensemble du gouvernement ?
Avec le membre du gouvernement en charge de la fiscalité, Gilbert Tuyénot, c'est un peu complexe. Mais par contre, on n'a pas abandonné l'idée de faire passer nos idées. Enfin, quand je dis qu'on prend en main la conférence sur les salaires également, en lien avec les différents membres du gouvernement, où on travaille avec le président du gouvernement, Louis Mapou, c'est pour apporter des solutions en commun et que chacun puisse faire des efforts les uns vers les autres. Ensuite, il faut que la collégialité puisse vivre. On a eu des exemples où c'était pas forcément le cas au cours de ces derniers mois, mais en étant optimiste, j'espère que ça sera mieux dans les prochaines
semaines. Elle existe encore, c'est un problème qui se pose dans tous les gouvernements de la Nouvelle-Calédonie depuis l'origine. Il y en a où la collégialité semble fonctionner, il y en a où ça n'a pas l'air du tout de fonctionner. Le gouvernement Mapou, il est dans quel étiage ?
Il y a des problèmes avec certains membres. Enfin, quand Gilbert Tuyénon révoque de manière non concertée trois administrateurs loyalistes du conseil d'administration d'Air Calin sans alerter la collégialité. La collégialité, elle fonctionne pas dans ces cas-là. Et c'est un comportement qui est pas acceptable. Enfin, les déclarations de Gilbert Tuyénon de manière générale ces dernières semaines où il remet en cause la paix en Nouvelle-Calédonie sont pas acceptables. Donc, il y a pas un fonctionnement optimal de la collégialité. Il y a une volonté de travailler ensemble de notre part. On l'a toujours dit. Je sens que du côté, peut-être plus du Palika, il y a une volonté de travailler ensemble. J'espère que ça se concrétisera.
Vous parliez d'Air Calédonie International. Vous-même, vous êtes administrateur d'ACI. Vous n'avez pas été évincé ?
Oui, j'ai échappé à la purge tuyonesque. Peut-être qu'il n'a pas osé sortir un membre du gouvernement, mais ça ne m'a pas empêché de lui dire ce que je pensais de ses méthodes.
En attendant, le gouvernement tient. On avait dit que le gouvernement Mapou était fragile, qu'il pouvait tomber dès le mois d'août. Finalement, vous êtes en fonction et on ne parle plus aujourd'hui d'une chute du gouvernement. Ça vous paraît être encore une hypothèse crédible, possible, ou est-ce que c'est écarté pour l'instant?
L'éveil océanien avait sifflé la fin du match sur une possible chute du gouvernement. Faire chuter le gouvernement si on n'a pas de majorité derrière, ça a absolument aucun sens. Et en plus, c'est reparti pour 18 mois. Nous, on l'a toujours dit, on considère que les loyalistes doivent diriger une des principales institutions de la Nouvelle-Calédonie entre le Congrès et le gouvernement. Si demain, on devait avoir une majorité au sein du gouvernement, bien entendu, on prendrait nos responsabilités. Pour le moment, on n'a pas de majorité. Mais pour ça, on est payé en tant que membre du gouvernement, donc on est payé pour travailler, et c'est ce qu'on essaye de faire sur... pas toujours simple, mais ce qu'on essaye de faire sur nos dossiers.
Alors vous avez plusieurs secteurs, enfin, tout le monde a plusieurs secteurs, vous en avez beaucoup, et ils sont très différents les uns des autres. Un dialogue social, c'est vrai qu'on n'a pas forcément souvent l'habitude de vous entendre sur ce sujet. En revanche, l'économie numérique, la transition énergétique, beaucoup plus. Comment est-ce qu'on arrive, là, sur un plan factuel, à traiter des dossiers aussi différents les uns des autres?
J'ai d'excellents collaborateurs. Mais,
t'en reposes sur eux.
Non, mais c'est des sujets qui sont aussi passionnants les uns que les autres. On est plusieurs, à la province sud ou ailleurs, à avoir une vraie passion pour la politique et une vraie passion de faire avancer les choses. Et que ça soit sur la transition énergétique, qui sont plus des infrastructures de long terme, mais une politique de long terme, l'économie numérique qui est plus une économie où on développe les start-up et plus au quotidien, le dialogue social où il y a une vraie concertation, un vrai débat entre les différents partenaires. Tous les secteurs sont aussi passionnants les uns que les autres et c'est pour moi, j'ai toujours dit que c'était un honneur d'être membre du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, même si c'est pas toujours facile en ce moment.
La transition énergétique, justement, c'est vraiment un sujet dont on parle beaucoup, c'est très, très à la mode, très dans l'air du temps. La Calédonie en est où ? C'est plutôt un bon élève ?
On a été très longtemps un très mauvais élève en matière d'émissions de gaz à effet de serre et aujourd'hui
par nombre d'habitants,
oui, parce qu'on est particulier, on est une île, on n'est pas beaucoup, mais on a trois usines métallurgiques qui sont parmi les plus grandes mondiales et donc les émissions de gaz à effet de serre étaient importantes. Aujourd'hui, moi, je suis ravi et c'est une vraie fierté, ça doit être une vraie fierté pour la Nouvelle-Calédonie d'entendre l'Union européenne, l'AFD, l'État, de dire qu'aujourd'hui le modèle calédonien est un modèle local, national et européen, et même dans la zone pacifique, en matière de développement des énergies renouvelables. On est en train d'inverser totalement le mix énergétique de la Nouvelle-Calédonie. On était à 80% d'énergie fossile. On arrivera en 2030 à 70% d'énergie renouvelable aussi dans la métallurgie. On sera à 100% d'énergie renouvelable dans la partie distribution publique l'année prochaine. Et c'est pas quelque chose qui fait juste plaisir en chiffres. C'est aussi des emplois qui sont créés, des dynamiques qui sont données, des cotisations qui rentrent, un vrai positionnement de la Nouvelle-Calédonie sur le côté nickel, le fait de développer un nickel propre et de se positionner sur les marchés internationaux. Donc oui, ça avance bien. On a eu un petit épisode au congrès qui a fait que le schéma a été retardé, mais c'est pas grave. On continue à travailler, on continue à expliquer et on continue à développer la Nouvelle-Calédonie.
Le schéma, il va être adopté quand? Vous avez déjà une idée? Vous avez une visibilité sur le calendrier?
On doit passer en commission du congrès le 26 décembre, le lendemain de Noël. Donc j'espère que les élus du Congrès seront touchés par l'esprit de Noël pour discuter de ce sujet important. Mais vous savez, quand on voit que les coûts du charbon ont été multipliés par 4 et qu'un bateau pour Enercal coûtait 400 millions il y a 6 mois et coûte 2 milliards aujourd'hui, on a tout intérêt, même financièrement, au-delà du côté environnemental, à accélérer encore plus la transition énergétique et nous rendre moins dépendants aux énergies fossiles. Ça serait quand même le comble que les indépendantistes soient pour une dépendance à quelque chose.
Mais globalement, il y a un consensus sur ce sujet. Le report de l'adoption du schéma de transition énergétique était plus de politique politicienne que sur le fond même du dossier, non?
Oui, je pense. Ils ont demandé des éléments complémentaires qu'on leur donnera lors de la commission. Vous savez, sur un dossier comme ça et à la veille des discussions institutionnelles, c'est bien si on arrive à trouver un consensus. Ça serait une belle image pour la suite.
Vous dites qu'il faut accélérer. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un risque tout de même d'aller trop vite dans ce domaine? C'est encore tout nouveau. On expérimente toutes ces nouvelles technologies. On les a pas vues sur le long terme. C'est pas un peu dangereux de foncer tête baissée dans cette transition énergétique?
On fonce, c'est sûr, mais on fonce pas tête baissée parce que on essaye vraiment de se rendre moins dépendant aux énergies fossiles et on a besoin d'avancer vite. La technologie en matière de panneaux photovoltaïques, elle est éprouvée. Enfin, moi, j'étais collaborateur de Sonia Backès qui avait passé les premiers textes en matière d'énergie en 2012 où les prix du kilowattheure étaient à 25 francs du kilowattheure. Aujourd'hui, on a 5 francs du kilowattheure, donc la révolution s'est faite. Le vrai sujet est de définir la stratégie nickel qu'on souhaite pour la Nouvelle-Calédonie, parce que de ça va dépendre les infrastructures qu'on mettra en place sur la partie énergétique. Si on a des usines qui passent de la pyrométallurgie à l'hydrométallurgie et beaucoup moins énergivore, on a besoin de moins de puissance, notamment sur les énergies fossiles qui nous restera. Donc il y a un bon mix à trouver, mais ça se fera dans les 6 prochains mois.
Pour la SLN, le mix, il a été trouvé, il va être efficace là. La centrale autonome transitoire est taquée là maintenant, ça va fonctionner.
La 4 est taquée. Le but, c'est qu'elle soit vraiment transitoire et qu'elle parte rapidement. C'est pour ça que je dis qu'on fonce, mais c'est important de foncer sur ce secteur-là puisque on a pris des engagements vis-à-vis de la SLN d'avoir 70% d'énergie renouvelable à l'horizon 2030 et donc on a un calendrier de production qui doit être mis et donc on tient les objectifs. On est même au-delà des objectifs. Le vrai enjeu des prochaines semaines, des prochains mois, va être le financement de la partie stockage de l'énergie, parce qu'on développe beaucoup de photovoltaïque, mais une photovoltaïque, la nuit, il n'y a pas de soleil. Donc c'est mieux de pouvoir stocker son énergie, et ce qui va être les vraies discussions, notamment avec l'État, sur la mise en place de STEP, qui sont des bassins par pompage qui feront du stockage d'énergie.
Le photovoltaïque, c'est l'énergie de demain pour la Nouvelle-Calédonie, ou est-ce qu'on envisage de développer d'autres systèmes, d'autres énergies alternatives?
Oui, on a d'autres systèmes comme notamment l'éolien ou l'hydroélectricité sur des petits barrages, mais enfin le photovoltaïque reste malgré tout l'énergie qui est le moins chère et qui est le plus efficace à l'heure actuelle en Nouvelle-Calédonie. En plus, on n'est pas la Martinique ou la Réunion ou la Guadeloupe, on a de la place. Et donc le fait d'avoir de la place, ça nous permet de d'avoir des fermes photovoltaïques qui sont compétitives et qui permettent surtout, enfin on parle beaucoup du secteur métallurgique, mais aussi de pouvoir à terme baisser la facture d'énergie aux Calédoniens, parce que l'énergie est extrêmement chère en Nouvelle-Calédonie et pèse, on parlait tout à l'heure du pouvoir d'achat, c'est un des gros postes de dépenses des ménages calédoniens, et donc l'objectif à terme, c'est de pouvoir baisser cette facture aussi à la population.
Et donc d'inciter les Calédoniens à s'équiper en photovoltaïque.
On a déjà avancé très vite là-dessus. Enfin, on a un taux d'installation qui est 20 fois supérieur à la métropole et supérieur à l'Australie en photovoltaïque en toiture, parce qu'on a mis en place des dispositifs incitatifs. Hein. Que l'autoconsommation soit totalement hors quota et donc soit autorisée naturellement, un tarif de rachat qui est encore maintenu à 15 francs du kilowattheure et une déductibilité fiscale qui est l'ordre de 2 millions pour les foyers. Donc ça a fait qu'on a installé environ 70 mégawatts en toiture en Calédonie, ce qui est extrêmement important.
Et la voiture électrique, vous y croyez? C'est vraiment la voiture de demain.
Je crois en la voiture propre, en tout cas la voiture électrique. On a pris volontairement du retard ces dernières années parce que on souhaitait d'abord verdir notre mix énergétique, parce que des voitures électriques alimentées au fioul et au charbon, ça avait pas beaucoup de sens. Donc on a verdi notre mix. On installe des bornes un peu partout sur l'ensemble de la Nouvelle-Calédonie. L'année prochaine, on accompagnera les Calédoniens sur le prix de la voiture électrique à travers un bonus. Donc ça sera une première réponse, et déjà une première réponse aussi au niveau du pouvoir d'achat. Puisqu'un plein sur une voiture électrique type SUV, on est à 7 500, 8 000 francs sur l'essence et on est à 700 francs pour la même autonomie avec de l'électrique. Mais ça mérite d'être accompagné. On continue à regarder ce qui se fait. Il y aura des véhicules à l'hydrogène qui seront certainement à mettre en place dans un second temps.
Et ça demande tout un équipement, évidemment, sur le territoire.
Oui, mais on est en train d'installer 130 bornes cofinancées par l'Agence calédonienne de l'énergie et par l'ADEME. Il y a 80 millions qui ont été mobilisés. Donc il y aura 130 bornes sur l'ensemble de la Nouvelle-Calédonie pour éviter qu'on tombe en panne quand on fait un tour en voiture électrique.
L'État regarde cette politique de transition énergétique d'un bon œil, c'est un secteur dans lequel l'État peut apporter son aide, puisque oui. On disait pas de chèque en blanc, mais là, s'il y a effectivement des vrais projets, une vraie volonté, l'État peut en revanche apporter son aide.
Oui, et dans le cadre d'un vrai projet. Enfin, moi, je me raccroche souvent au plan France 2030 qui est porté par le président de la République, avec la décarbonation de l'industrie, une vraie transition énergétique. Et on travaille avec l'État depuis de longs mois sur ce projet de la transition énergétique, puisque c'est des investissements de long terme. Et on a toujours eu des échos qui sont extrêmement positifs, à la fois de l'Élysée, de Matignon et de Agnès Pannier-Runacher, qui est ministre de la transition énergétique, que j'avais eu l'occasion de rencontrer lors de mon dernier déplacement en métropole.
Si on parle un petit peu politique, qu'est-ce que vous avez retenu de la visite de Gérald Darmanin en Nouvelle-Calédonie?
Elle était extrêmement utile. On voit que aujourd'hui il y a une reprise du dialogue en Nouvelle-Calédonie qui était indispensable, avec certains qui restent encore sur quelques postures et qui attendent leur congrès. Mais vous savez, quand on voit que sur le groupe foncier qui s'est tenu à Nouméa, on a le Palika, on a des gens de l'UC avec Robert Rouy qui est maire UC de l'IFU, on a le président du Sénat coutumier qui sont autour de la table, c'est qu'il y a une reprise de dialogue et il y a une prise de temps de la part de Gérald Darmanin. Enfin, je pense que les Calédoniens se rendent pas souvent toujours compte du fait de rester une semaine en Nouvelle-Calédonie pour un ministre d'État qui est ministre de l'Intérieur et qui a des choses à gérer actuellement en métropole. C'est quand même un investissement personnel extrêmement important et qui a été utile, parce qu'il a pu comprendre le dossier calédonien, peut-être pas totalement, mais au moins il a tissé des liens avec des personnes loyalistes qu'ils avaient déjà et aussi indépendantistes.
Il a eu raison d'accepter le calendrier des indépendantistes qui veulent pas discuter avant la tenue de leur congrès, du congrès du FLNKS et du congrès du congrès populaire.
Ouais, enfin, vous savez, nous on est depuis de longs mois, on demande qu'on avance sur le sujet. Les Calédoniens, ils ont besoin de visibilité, ils ont besoin que la Nouvelle-Calédonie avance, ils ont besoin de stabilité.
Et là, on leur retarde encore un peu le calendrier, non?
Et j'allais y venir. Pas grand-chose allait se passer au cours du mois de janvier. Donc, s'il faut attendre fin janvier pour qu'on avance plus vite après, c'est peut-être la bonne solution. Le but est d'avancer plus vite après.
Et est-ce que vous avez un sentiment ou non d'un durcissement des indépendantistes? Vous avez l'impression que là, ils vont être prêts à retourner autour de la table, qu'effectivement, cette visite ministérielle a un peu débloqué les choses?
Je sens qu'il y a une reprise du dialogue. Ensuite, les voix des indépendantistes sont souvent impénétrables, notamment à l'UC. Mais on sent qu'il y a quand même, enfin, on parlait du groupe foncier, malgré tout, le fait que le Palika soit là, le fait que des représentants de l'UC soient là, le fait que Jacques Lallier était à Paris. Je crois que tout le monde a salué la venue du ministre. Mais bon, je laisserai les indépendantistes s'exprimer sur le sujet. Je ne suis pas leur porte-parole.
Les groupes de travail, c'est une bonne méthode pour préparer l'avenir, institutionnel. On a l'impression qu'ils sont très centrés sur des questions pratiques, des questions quotidiennes, à part le groupe évidemment avenir institutionnel. Ça peut servir à quelque chose ?
Oui, parce que ça, souvent sur des côtés pratiques et de quotidien, on peut se mettre d'accord un peu plus facilement que sur des questions institutionnelles. Et donc, il faut vraiment qu'on puisse définir le projet de société qu'on souhaite pour la Nouvelle-Calédonie en termes de nickel, de transition énergétique, de foncier et les différents sujets. Et ensuite, on met en place les institutions qui permettent de porter ce projet de société. Et donc, il y a une vraie utilité aussi pour la reprise du dialogue. Et je crois que c'est en se parlant qu'on avance.
Comment est-ce que vous voyez la suite du processus et le calendrier aujourd'hui ? Quelle visibilité justement on peut donner aux Calédoniens ? Est-ce qu'il faut leur dire d'attendre encore ? C'est quoi ? C'est 2023 va être une année de discussion et on aura trouvé peut-être quelque chose avant 2024 ou est-ce qu'il faut voir au-delà ?
Bah nous, on est tenu par le relevé de conclusion de la convention des partenaires qui s'est tenu à Paris avec un calendrier qui est posé, avec des élections provinciales qui se tiendront en 2024. C'est ce qu'on avait demandé quand on avait été à Paris, qu'on ait un calendrier précis et un engagement de la part de l'État que les élections provinciales se tiennent en 2024. Donc ça a été posé dans le relevé de conclusion. Il est marqué que les groupes de travail doivent se conclure en milieu d'année 2023 et ensuite synthétiser autour d'un projet. On reste sur ce qui a été décidé à Paris.
Globalement, vous êtes optimiste aujourd'hui ou un peu inquiet quand on voit situation économique, situation sociale, incertitude sur l'avenir ?
Quand on regarde la Nouvelle-Calédonie qui a vécu trois référendums, trois crises sanitaires et qu'on a une résilience pareille des entreprises calédoniennes et des Calédoniens de manière générale, on peut être qu'optimiste parce qu'il y a un engagement de la part de la population qui est... Moi, je suis toujours impressionné de ça. Notre rôle est d'être optimiste aussi, de mettre en place les mesures qu'il faut pour avancer. Il faut rester prudent, parce qu'on a des partenaires qui sont parfois surprenants. Mais la Nouvelle-Calédonie a beaucoup de potentiel qui n'attend juste qu'à être développé. Donc oui, je reste optimiste, mais prudent sur la suite institutionnelle.
Une raison d'être optimiste aussi, je sais, avant de conclure, c'est le football. Vous êtes un vrai passionné, vous suivez cette Coupe du Monde avec beaucoup d'intérêt.
Et
d'espoir.
Non, pas d'espoir, parce qu'on va gagner, dans la nuit de dimanche à lundi contre l'Argentine. Donc ça va être un très beau match entre la France et l'Argentine, entre Mbappé et Messi. Et moi qui suis fan du PSG, il y a deux grands joueurs du PSG qui sont dedans. Mais la France gagnera contre l'Argentine et mettra sa troisième étoile sur son maillot.
On sait bien que le football, c'est très politique aussi. Ça peut être un instrument de cohésion ici.
Bah, quand j'entends Gilbert Tuyénon sur votre antenne soutenir la France, ça peut faire que plaisir. Et de voir des gens qui sont indépendantistes, je sais indépendantistes avec le maillot tricolore, ça donne de l'espoir. Et parfois, le sport, ça rassemble au-delà des idéologies. Et c'est une très bonne chose.
Christopher Gégès, merci d'accepter votre invitation.
Merci à vous.